RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h06 et l'Intégral Tour c'est jusqu'à 21h. Je vais vous rappeler les grands titres de l'actualité sportive. Novak Djokovic a fini par s'en sortir à Wimbledon. 5-7 et 2 jours pour se défaire de Kevin Anderson. Le numéro 1 mondial est en quart de finale. Serena Williams s'est qualifiée il y a quelques minutes pour les demi-finales en battant Victoria Azarenka. Elle sera opposée à Maria Sharapova. Arnaud Clément lui a fait son choix. Le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis emmène Richard Gasquet, Gilles Simon, Nicolas Mahut et Joe Wilfried Tsonga au Queens. C'est là que les Bleus affrontent la Grande-Bretagne d'Andy Murray dans 10 jours en quart de finale de la Coupe Davis. Il s'appelle Trapp, Kevin Trapp, il est gardien de but, il est allemand, il est arrivé au PSG aujourd'hui. 3 gardiens pour le Paris Saint-Germain avec Salvatore Sirigu et Nicolas Duchesne. Bounassar, nouvel attaquant de l'OM, sera avec nous en direct dans une petite demi-heure. Mais pour l'instant, on parle du Tour de France et ils sont là avec nous, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Voilà.
Lucho n'est même pas en retard, c'est vous dire la chance qu'on a à 32-16 quand même.
Jaune, hein. Il a le maillot jaune.
Ouais, c'est ça. Maillot jaune, 2 jours de ça suite, ce qui n'arrive pas en vrai, hein, parce qu'il y a eu 4 maillots jaunes en 4 étapes là sur le tour. Hein.
Exactement.
Tout à fait.
Ça rend le tour plus intéressant, avec plus de suspense, ce maillot jaune qui vogue d'épaule en épaule.
C'est pas forcément le maillot jaune qui vole d'épaule en épaule, mais c'est surtout les journées qu'on passe avec des rebondissements, avec dès la deuxième étape un grand coup de bordure qui a animé franchement la course, et puis après bon malheureusement la chute hier, la grosse gamelle d'hier, mais la prise de pouvoir de Froome aussi. Ça dénote de la grosse envie de Froome de gagner ce tour. Il l'avait dit, mais bon, après, dans les actes, on n'était pas forcément sûr, mais des 4 fantastiques, c'est quand même lui le meilleur.
Ouais, d'ailleurs, on a David au 32-16 qui veut nous parler de Chris Froome. Bonsoir, David.
Bonsoir.
David, tu as tendance à penser qu'il est au-dessus des autres, hein, Chris Froome.
Pour ma part, bref, quand on voit, alors est-ce que c'est coup de poker ou pas, mais pour moi, il pédalait avec les oreilles aujourd'hui, hein, se montrer comme ça à l'avant, rouler avec une puissance, on voit une aisance, une puissance, on sent qu'il y en a là-dedans, et je pense qu'il fera vraiment la différence face à Contador. Moi, pour moi, dans les étapes de montagne, je pense réellement que cette année, il est au-dessus, il a pas de pépins. Contador, pour moi, il a laissé quand même du jus sur le Giro. Donc je pense clairement que aujourd'hui, Froome, pour moi, après ça va être une belle bataille, je pense, dans la montagne, mais je pense que Froome a quand même un ascendant, que ce soit psychologique et tout ça, sur Contador, et ça va jouer dans la montagne. Mais je vois grosso modo Froome gagner le Tour cette année, bon, avec peut-être dans les montagnes quelques petits, bon, peut-être une victoire de Contador ou des choses comme ça. Mais à l'arrivée, ce sera Froome pour moi qui sera devant. Donc,
Lucho Gongli, voilà. Vous avez aussi ce sentiment-là que Froome est au-dessus des autres favoris du départ.
Bon, il faut pas exagérer non plus, quand même. Froome, il a démontré aujourd'hui qu'il était en grande condition. Nibali, on l'a vu, a démontré aussi qu'il était toujours là. Après, il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'il reste, c'est quand même le 4e jour. La première semaine n'est pas terminée du tout. Donc, on en est qu'à la moitié de la première semaine, pratiquement, demain. Donc, il y a les Pyrénées qui vont arriver, il y a les Alpes, il y a encore entre les Pyrénées et les Alpes, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, il faut quand même être assez réservé tant qu'à la condition de Froome aujourd'hui, même s'il peut gagner, il fait partie des grands favoris, il peut gagner le Tour de France, mais c'est pas lui qui peut pour l'instant au 4e jour dire qu'il va gagner le Tour de France.
Je suis d'accord avec toi, parce que au bout de 4 jours, on peut pas tirer les... Bon, il a un ascendant psychologique, c'est vrai, il a montré qu'il était bien, puisque dans le mur du oui, il a été au-dessus des autres, et puis aujourd'hui il était très bien, voilà, c'est tout.
Parce qu'aujourd'hui certains disaient oui, bah, sur les pavés Froome, ça va pas être possible, et finalement il était là et bien là. Bon, alors à part quand Tony Martin est parti, bien sûr, là les Sky ont pas voulu ou pas pu aller défendre ce maillot jaune.
Moi, je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt à aller chercher Martin. C'était pas à eux à y aller. Même, bon, il ne restait plus qu'un Sky avec le maillot jaune. Ils pensaient peut-être que c'était aux coureurs. Ça devait être les coureurs des équipes de sprinteurs qui devaient prendre la course en main à ce moment-là. Bon, après, qu'il le perde, il le perd pour 12 secondes. Martin, c'est pas un prétendant à la victoire finale, loin de là, donc il n'y a pas de problème.
Et
ça soulage aussi son équipe.
Il y a également Toitouane sur Twitter avec le hashtag RMC Live qui demande si Froome n'a pas fait exprès de laisser le maillot jaune à un autre pour économiser ses coéquipiers avant la montagne.
Ouais, bah ça faut lui demander, mais ça peut être une stratégie parce que bon, pendant une semaine, c'est vrai qu'il va économiser ses coureurs. Parce que s'il a le maillot, bah c'est eux qui vont prendre la barre. Et puis ils ont démontré par le passé qu'ils savent le faire.
Alors, on a bien parlé de Chris Froome. David, je crois que tu voulais aussi dire un mot sur les Français. C'est pas évident, hein, ce début de tour, pour Thibaut Pinot, par exemple.
Moi, j'ai peut-être un avis un peu trop critique sur Thibaut Pinot. Clairement, pour moi, il a pas bien couru, ou alors il avait pas forcément les jambes de feu. Moi, j'ai couru quand même niveau élite, donc c'est des niveaux où on a l'habitude des bordures ou des choses comme ça. On sait qu'il y a du vent, on sait qu'il y a des conditions compliquées. Moi, mon entraîneur m'a toujours dit, dans des conditions comme ça, t'es dans les 30 premiers du peloton et t'en bouges pas, quoi. Sinon, on sait très bien quand ça saute et qu'il y a des bordures pour revenir. Et ben, c'est compliqué, c'est ce qui s'est passé. Et, il s'est fait bordurer, il perd du temps sur la deuxième étape. En comptant ça, enfin. Pour moi, il est peut-être moins fort que les autres années. Il est moins fringant pour moi. Il a moins de jus, il est moins performant. Après, peut-être qu'il va revenir dans les étapes de montagne, peut-être un petit peu mieux. Et puis il joue un petit peu de malchance aussi. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Après, on a quand même des coureurs comme Tony Galopin qui sont quand même des coureurs qui maintenant ont. Enfin, c'est un coureur qui a 27 ans. Moi, j'ai couru avec lui quand j'étais junior. Et c'est un mec qui a toujours eu une caisse, qui a toujours été impressionnant. Il a quand même fait des temps sur les chronos, que ce soit au championnat de France, championnat d'Europe. Enfin, c'est un jeune espoir. Et je pense que son parcours à la Radio Shack avec des équipes on va dire étrangères où il a connu des grands leaders, je pense qu'il a pris énormément d'assurance, énormément de caisse. Alors, il passera peut-être pas la montagne comme un Thibaut Pinot, mais pour moi, je trouve que c'est bien d'avoir un Français au bout de quelques jours de course comme ça, au moins dans les 10 premiers du peloton.
Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ?
On a deux.
Oui, on en a deux, parce qu'il ne faut pas oublier non plus Warren Barguil qui fait un très bon début de Tour de France.
On parle toujours de Romain Bardet, de Thibaut Pinot, de Jean-Christophe Perrault, et on met un petit peu à la trappe Warren Barguil qui nous ne l'oublions pas, a quand même réalisé de très très belles performances depuis qu'il est pro. Et aujourd'hui, il confirme tout son talent et je dis pas la grande vedette de ce Tour de France au niveau des jeunes, mais c'est la grande surprise.
D'ailleurs, on a également Slim Shady sur Twitter, hashtag RMC Live, qui nous demande si c'est pas finalement la meilleure chance française pour le classement général, Warren Barguil.
Pour l'instant, oui. Pour l'instant, Galopin et Barguil, mais plutôt Barguil, parce que Barguil est un meilleur grimpeur encore que Galopin.
Que Tony.
Tony. Oui. Warren Barguil a démontré par le passé qu'il jouait mano mano avec les meilleurs grimpeurs sur la Vuelta.
Non, mais en plus, il a
gagné
partout,
des étapes. Il a gagné des étapes à la Vuelta. Alors quand on est capable de gagner les Vuelta, et en plus on le sent progresser d'une année sur l'autre, même si en début de saison, c'est peut-être un mal pour un bien, qu'il ait eu un manque de résultats en début de saison. Là aujourd'hui il arrive au top au bon moment pour le tour. Après la route est longue, hein, on attend de voir, mais pour l'instant 11e au général à 1:19, il peut très bien remonter dans les 5 premiers, hein, rapidement.
Merci beaucoup David d'avoir appelé le 32-16. On est là jusqu'à 20h30. Juste un mot encore sur Thibaut Pinot. Est-ce que c'est de la malchance ce qu'il a eu aujourd'hui?
De la malchance. De toute façon, à partir du moment où on n'a plus la condition, où on est en moyennement en condition, et par rapport à ce qu'il a eu hier, le débours qu'il a eu hier dans le mur de Huy, la chute de son compagnon d'équipe William Bonnet, c'est vrai que ça fait beaucoup pour lui. Et psychologiquement, il devait être un peu atteint et diminué. Et là, aujourd'hui, on l'a vu. Quand on est diminué.
Ah, On a perdu Lucho, donc on parlait de Thibaut Pinot, parce que c'est vrai que les images, elles sont assez impressionnantes quand on le voit. Il se fâche contre son staff, etc. Ça c'est de l'impuissance, en fait.
Non,
c'est de la frustration.
C'est un peu normal, oui. Virginie, quand tu es là pour avoir le meilleur des résultats, que tu as, bon, il l'a dit lui-même, hein, qu'il avait pas les super jambes, donc déjà il est à la peine pour essayer de suivre le meilleur, et quand il arrive à les suivre, il lui arrive encore une connerie, un problème de dérailleur, et puis derrière, il y a la panique, il y a un de ses équipiers qui lui propose son vélo, il en veut pas, on sait pas réellement s'il avait pris le vélo de son équipier, si ça pouvait le sauver plus que ça, mais c'est vrai que s'il y a une grosse différence de hauteur de selle, on peut pas pédaler debout toute l'étape ou toute la fin d'étape.
On va retrouver Lucho, hein, ne vous inquiétez pas, on l'a pas encore, mais il sera là dans quelques instants avec nous. Thibaut Pinot, moi je me mets à sa place, en fait. Enfin, je me mets à sa place, si on peut dire. Je me dis, quand on partait avec l'ambition d'un podium, par exemple sur le Tour de France, et après un très bon contre-la-montre, plusieurs étapes où ça ne veut pas, et qu'on voit tout ce qui arrive derrière, c'est-à-dire les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, est-ce qu'on n'est pas un peu accablé ? Est-ce qu'on se dit pas, non, je vais laisser tomber, c'est pas mon tour, je vais laisser tomber.
On va voir le mental qu'il va avoir, parce que là c'est vraiment du mental. Je pense que son directeur sportif va le remonter, va lui dire que c'est conséquence du manque de chance, hein. L'an dernier il a bénéficié de concours de circonstances qui l'ont propulsé sur le podium, avec de la force forcément, mais il y a un concours de circonstances. Les deux meilleurs grimpeurs, Froome et Contador, sont tombés. Ça a aidé sa progression vers le podium. Après, cette année ça veut pas le faire, mais ça veut pas le faire aujourd'hui.
Oui, ça va. Il peut se rattraper
maintenant pour aller gagner le tour ou rentrer sur le podium. Ça risque d'être très difficile. Il y a déjà un débord de plus de 6 minutes, mais au contraire,
des coups sont encore possibles.
Il va peut-être se recentrer sur le maillot grimpeur de grimpeur, et pourquoi pas une étape ou plus. Hein.
Lucho, tu es revenu. On t'avait perdu. Tu es revenu.
Oui, il y a une coupure.
Il y a eu une coupure, effectivement. Ça y est, tu es là. On parlait du mental qu'il faut avoir pour quelqu'un comme Thibaut Pinot qui a eu de la malchance pendant ces quelques jours là. Pour finir le tour, le mental, évidemment, c'est très important.
De toute façon, oui. Pour finir le tour, pour le gagner, il faut déjà avoir le physique, il faut avoir la chance, il faut avoir le mental. Et le mental, c'est pratiquement, 80% de la réussite aussi. Parce que quand on a le mental derrière, automatiquement, on a la condition. Et tout va bien. Donc c'est vrai que c'est très important pour la suite du tour. Et le fait de se mettre un petit peu aux avant-postes aujourd'hui, comme l'a fait Nibali, ça le met en confiance. Donc automatiquement, quand on met en confiance quelqu'un, un coureur, quand on se met en confiance soi-même déjà dans une étape très difficile comme celle d'aujourd'hui avec les pavés et le vent, c'est très très bon pour la suite des événements. Donc voilà, même je dirais aussi pour Quintana. C'est Quintana, il progresse quand même de jour en jour, hein. On le voit aujourd'hui, même si c'était une étape très difficile pour lui, où il s'est mis minable, comme on pourrait le dire. C'est ce qui est logique d'ailleurs, puisque c'est pas un spécialiste des pavés. Je crois que la bonne chose qu'il ait faite depuis le début de saison, c'est d'avoir fait quelques pavés, d'avoir reconnu quelques pavés, secteur pavé. Et on le voit aujourd'hui, il est quand même dans le premier groupe. Donc c'est un Colombien, c'est un pur grimpeur. Donc c'était pas évident pour lui aujourd'hui d'être là. Donc moralement aussi, c'est bon pour lui pour la suite.
Alors justement, Valentin est au 32-16 et veut nous parler de Quintana. Bonsoir Valentin.
Bonsoir à tous.
Salut Valentin.
Quintana, toi justement, tu vois en lui le favori numéro 1.
Ça l'était avant le départ, et ça l'est presque encore plus aujourd'hui. On a l'impression que Froome maintenant est devenu le favori numéro 1 pour les médias, pour les suiveurs. Et Quintana est un peu débarrassé d'une certaine pression. Son équipe, la Movistar, n'a pas à faire la course. Et puis on est qu'au quatrième jour du tour, mine de rien. Donc la route est encore longue, et on va se rapprocher de plus en plus des terrains qui sont adaptés à sa morphologie et à son profil de coureur. Donc ouais, pour moi, ça reste le grandissime favori de Tour de France.
Voilà. D'être d'accord aussi tous les deux. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas parmi les 4 10 fantastiques, c'est celui dont on a le moins parlé finalement pour l'instant. Et c'est vrai qu'on commence à beaucoup parler de Froome parce qu'il s'est plus montré ces deux derniers jours. C'est une erreur à ne pas commettre.
C'est attention parce que Quintana est loin d'être d'avoir course perdue. Comme disait Valentin, il se fait oublier, il est là, il progresse. Bon, il a été piégé le jour du coup de bordure, deuxième étape, mais bon, il n'est pas mort pour ça, hein. Attention, s'il a encore quelques jours un peu à galérer dans le vent, s'il y a des coups de bordure, je pense que son équipe va pas se faire piéger tous les jours, mais arrivé dans les Pyrénées, dans les Alpes, il y a assez d'étapes pentues pour lui donner beaucoup d'avance.
Et Alberto Contador, est-ce qu'il est capable de tenir et de jouer aussi les premiers rôles, lui, jusqu'au bout?
On verra son état de fraîcheur, parce que c'est vrai qu'on le sent un peu grimaçant à chaque fois sur le vélo. Bon, après, il est toujours là, mais il est un peu dans le dur. Hein. C'est pas le coup de pédale facile. Donc, après, c'est pas dans le mur du oui qu'on peut juger quoi que ce soit.
Chaque jour ça change, il y en a un qui est bien, l'autre moins bien, ça tourne. Donc le
vrai verdict, ça sera dans les Pyrénées, dans les Alpes.
Samir sur Twitter, hashtag RMC Live, nous dit que Contador joue l'expérience, perd moins de temps, rester bien placé le temps que la condition revienne. Et ce serait donc sa tactique. Vous en pensez quoi?
En tous les cas, si c'est ça, il y arrive bien. Parce que s'il est pas très bien et qu'il a besoin de se remettre en course, parce que depuis le Giro il a pas fait grand chose à part la route du Sud, il a fait vraiment des courses système allégé pour pouvoir récupérer avant tout. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que 3 semaines entre les deux grands tours, et qu'un grand tour vous met quand même à plat. D'autant plus qu'on l'a vu sur le Giro, il était tout seul, il se battait souvent seul contre les Astana. La dernière semaine a été terrible pour lui. Donc si c'est ça, eh bien il y arrive. J'espère qu'on aura un beau Contador, un beau Quintana, et puis un Froome en super condition pour nous faire un super spectacle.
Merci beaucoup Valentin d'avoir appelé le 32-16 pour parler avec Lucho et Bourgui. Il y a un autre favori dont on n'a pas parlé, c'est Nibali qui était quand même...
J'ai oublié de le citer, oui.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu quand même sur cette étape sur les pavés. Hein.
Ah oui, Nibali, on l'a vu complètement, oui. Et bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, Virginie, il y avait vent de face dans les 30-40 derniers kilomètres, donc c'était difficile de pouvoir faire la différence. Mais dans les 3 derniers secteurs pavés, il a quand même essayé de mettre en difficulté Contador, Quintana et puis Froome. À un moment donné, il les a mis en difficulté. Il y est même arrivé. Le problème, c'est qu'il a perdu son équipier sur une crevaison. Donc, il s'est retrouvé tout seul et il n'a pas pu faire peut-être plus de différence et les mettre plus en difficulté. On a vu Froome qui à un moment donné était limite. Mais ceci dit, Nibali, il a marqué énormément de points psychologiques aujourd'hui.
Et j'ai quelqu'un qui a quelque chose à te dire, je crois, Lucho. Un petit message pour toi. On va voir si tu reconnais cette personne. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Marie-Thérèse.
D'entendre mes chers amis.
Bonsoir Marie-Thérèse. Vous allez bien?
Je suis contente. Et puis le Tour de France, il va être épatant, formidable, parce qu'avec ces 4 cracks, eh bien, du plaisir, on va en avoir. Mais dans les Alpes, eh bien, ils vont souffrir, hein, parce que c'est pas du gâteau dans les Alpes, hein.
Comme dans les Pyrénées, hein, Marie-Thérèse. Hein.
Oui, mais quand même, Luc, cette année, vraiment, je trouve que les Alpes sont très, très dures. Regardez, Saint-Jean-de-Maurienne, là, tout suivre, ce sont que des faux plats. Il n'y a pas de plats. Et le lendemain, montée sur Alpes d'Huez, je vous assure qu'il y en a qui seront cuits. Hein.
C'est clair.
Marie-Thérèse, est-ce que vous vous régalez depuis le début de ce tour?
Mais alors, j'ai beaucoup de peine, moi, pour Thibaut Pinot. Mais je lui souhaite quand même de gagner une étape pour quand même qu'il se fasse un peu plaisir. Parce qu'il vraiment, alors, il a pas de chance, quoi. Là, aujourd'hui, dites, il crève, et il a pas de mécanicien, il pestait comme tout, le pauvre garçon. Mais enfin, hein, c'est comme ça. Mais je me régale, hein, parce que pour moi, vous savez bien que le Tour de France, c'est magique.
Mais depuis que je suis avec RMC, ça fait 14 ans, ça fait 14 ans que vous êtes avec moi, Mali.
Mais bien sûr, et c'est
ce qu'on appelle une fidèle auditrice.
Et vous, ah ben bien sûr, mais vous savez qu'on a essayé, ma fille a essayé de vous joindre, mais bon, on ne savait pas où vous habitez, peut-être Limoges, peut-être pour essayer d'avoir des contacts avec vous, voyez.
Ben, le 32-16, ça marche très bien, regardez.
Mais oui, mais c'est RMC. Ah, dites, Luc, alors, oui. Vous savez que je vous attends au 19, hein, vous êtes à Valence, hein.
Je sais.
Hein,
je sais, je sais, Marie-Thérèse.
Eh ben voilà, le rendez-vous est pris alors.
On verra bien comment ça va se passer. Parce
comment
que
ça va se passer, ouais, vous savez que je reçois RMC. Hein.
Ah ben écoutez, parlez-en à Virginie, elle va vous passer la jeune et belle demoiselle qui prend les auditeurs. Et vous voyez avec eux, savoir si on peut arranger le truc et que toute l'équipe vienne chez vous manger. Moi, je sais
pas.
Ah,
ben oui, ça va
faire
ça. Plaisir,
tout
hein.
Ça, on va faire ça. On va faire ça juste après l'antenne. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Et continuez à suivre le Tour de France sur RMC tous les jours.
Et je vous embrasse tous, hein.
Et on vous embrasse aussi, Marie-Thérèse. Oui. Et on sera encore là demain pour la 5e étape d'Arras à Amiens. À demain, Lucho, à demain, Bourgui.
Oui,
vous serez là, bien sûr. Oui.
Il y a bien longtemps qu'il n'avait pas parlé de bouffe encore. Hein.
Oui, mais je comprends. Oui, j'aurais bien envie d'en parler aussi.
Et là, il craque,
hein, 8h30. Je suis étonné de ta non-réaction, Thierry.
Non, je t'ai laissé parler.
Après le sandwich au maroilles, on va voir aujourd'hui ce qui se passe. Bon, allez, je vous dis demain à 20h, mais dès 15h, vous serez à l'antenne pour l'intégrale Tour sur RMC. Dans un instant, nous, on va se mettre au foot. Hein. Le PSG a-t-il trop de gardiens de but? Kevin Trapp a signé aujourd'hui. Et puis, on sera en ligne avec la toute nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, Bounassar, en direct avec nous. À tout de suite.
RMC, intégrale Tour, Virginie Fulpin.
C'est l'intégrale Tour sur RMC jusqu'à 21h. Mohamed Bouafsi est avec moi en studio. Salut Mohamed.
Salut Virginie.
On est en ligne avec la 5e recrue de l'été de l'Olympique de Marseille, Bounassar. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Bouna.
Attaquant franco-guinéen du FC Metz qui vient donc de signer à l'OM. C'est votre première interview en tant que Marseillais. Vous la connaissez déjà là, cette musique qui passe?
Bah oui, forcément oui.
Donc c'est Jump de Van Halen, évidemment, la musique de l'OM. Qu'est-ce que ça vous fait, Bouna, d'arriver comme ça à l'OM, là, vos premières impressions?
Forcément, c'est beaucoup d'émotions. Je suis forcément très, très heureux, très, très content. Donc voilà, j'ai hâte déjà de faire ma deuxième séance cet après-midi, mais je suis vraiment très heureux de cette signature.
Ça, vous avez l'impression de changer de monde en passant de Metz à Marseille?
Bah oui, forcément, c'est vrai que j'arrive dans un club populaire. Voilà, qui a une très grosse notoriété dans le football français. Donc forcément, voilà, ça va me changer. Mais maintenant, ça va être à moi de vite m'adapter.
Dites-nous un peu ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé à l'OM.
Bah, forcément, quand j'ai vu les infrastructures, c'est vrai que j'étais un peu impressionné. Elles sont vraiment plaisantes. Mais voilà, comme je vous ai dit, il va vite falloir que je m'adapte et que je me fonde dans le groupe marseillais.
Bouna, vous étiez courtisé par d'autres clubs, en Angleterre notamment, et par exemple Saint-Etienne en France. Mais dans votre tête, le choix était clair, c'était absolument l'Olympique de Marseille?
Bah écoutez, pas forcément. Après, c'est sûr que quand un club comme Marseille se présente, ça se refuse pas. Mais à côté de ça, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est surtout le discours que j'ai pu avoir avec le président et l'intérêt de Bielsa en lui-même qui a vraiment pesé dans la balance. Et à partir du moment où j'ai su que c'est lui-même qui me voulait et que ça venait de lui, donc j'ai pas hésité et j'ai donné mon accord à Marseille.
Alors Marcelo Bielsa, justement, vous l'avez rencontré là déjà, Bounassar, comment ça s'est passé, les premières impressions avec lui?
Bah écoutez, j'ai pas eu le temps de le rencontrer parce que je me suis entraîné ce matin avec un groupe de 4-5 joueurs, mais j'aurai l'occasion de le rencontrer cet après-midi pour la séance avec le groupe au complet. Et donc voilà.
Qu'est-ce que ça fait de se dire que Marcelo Bielsa a validé son profil qu'on était voulu par Marcelo Bielsa?
Bah écoutez, c'est plutôt flatteur. Voilà, c'est vrai que j'arrive avec la confiance du coach que je dois davantage conquérir. Donc c'est vrai que c'est toujours plaisant de se savoir voulu par le coach, par le président, par ses adjoints. Donc c'est vrai que ça fait plaisir.
La présence de Bielsa, ça a motivé votre choix ?
Bah oui, forcément. C'est vrai que son avenir était un peu incertain à l'Olympique de Marseille. Mais il s'avère que voilà, il va finalement rester. Donc c'est vrai que quand j'ai su qu'il restait à l'Olympique de Marseille, ça a vraiment pesé dans la balance et de mon choix.
Vous êtes né à Lyon. En jeune, vous avez côtoyé la Casette, Grenier. Vous n'aviez pas envie de les retrouver, eux, plutôt à Lyon ?
Bah écoutez, pas forcément. C'est vrai que voilà, Marseille s'est positionné. J'ai eu aucun intérêt de Lyon. Donc moi, je n'étais pas là pour me poser une question ou attendre un signe de Lyon, pardon. Donc voilà, Marseille s'est positionné. Et, comme je l'ai dit, Marseille, c'est un club qui ne se refuse pas. C'est un grand club, c'est un club populaire. Donc je suis très heureux aujourd'hui de signer à Marseille.
C'est quoi vos objectifs, Bouna, avec l'Olympique de Marseille ?
Tout simplement de faire une belle saison. C'est vrai que j'arrive un peu dans l'inconnu. Il y a pas mal de personnes qui ne me connaissent pas. Maintenant, à titre personnel, je ne veux pas mettre une pression particulière. Mais si on sait que c'est un club et un public exigeant. Donc voilà, ça sera à moi de bosser et de me fondre dans le groupe et d'être performant avec l'équipe aussi bien individuellement que collectivement.
Et vous postulez une place de titulaire ?
Bah oui, forcément, je vais arriver sur la pointe des pieds, mais quelque part, je ne viens pas ici pour me laisser bouger. Si je viens ici, c'est forcément pour avoir du temps de jeu. C'est vrai que c'est impressionnant pour moi de passer de Metz à Marseille, mais quelque part, si je suis ici, c'est que je le mérite. Et voilà, sans aucune prétention, je mettrai tout en place pour jouer. Et avec toute l'abnégation que je vais mettre dans mon sérieux et dans mon travail, je pense que ça devrait le faire.
Vous êtes depuis quelques heures à Marseille, Bouna. Vous êtes présent ici sur les réseaux sociaux. Vous la ressentez, cette ferveur des supporters de l'Olympique de Marseille qui vous a envoyé des messages ou qui était à la commanderie ces dernières heures ?
Oui, c'est sûr, forcément. L'engouement, il est vraiment exceptionnel. Donc voilà, mais après, ça ne me surprend pas. De réputation, c'est très bien que Marseille, c'est un club populaire et qui a des fidèles supporters. Donc je m'attendais un peu et ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui.
Et ça fait partie des choses qui vous attirent, ça, d'aller au restaurant à Marseille, qui est forcément tout un tas de supporters derrière, qui soient forcément avec vous. Vous allez vivre avec ça, là, maintenant.
Oui, forcément, maintenant. Voilà, je suis plutôt quelqu'un de discret qui. Voilà, je suis à Marseille, pas pour aller au restaurant. Je suis là pour chercher des choses, aller chercher des choses. J'ai un objectif, c'est de jouer, de faire la plus belle saison possible. Donc il n'y a vraiment qu'une chose qui m'apporte aujourd'hui, qui est importante pour moi, c'est le terrain et d'être productif et d'aider le groupe à faire une belle saison.
Offensivement, il y aura de la concurrence la saison prochaine au Campos, Florian Thauvin, Alessandrini ou encore Georges-Kevin Nkoudou. Pour vous, c'est quoi votre meilleur poste, Bouna ?
Bah écoutez, j'ai pas forcément de préférence. C'est vrai que je peux jouer sur tout le champ de l'attaque, à part en neuf, en pointe. Donc c'est vrai que les saisons précédentes, j'ai aussi bien évolué derrière l'attaquant que sur les côtés. Donc écoutez, au niveau de ces postes, je jouerai au poste auquel on me demandera de jouer. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Et puis vous allez jouer la Ligue Europa aussi quand même. Ça va être une découverte, une autre pour vous.
Ouais, c'est sûr. Voilà, je vais jouer l'Europe. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est bon, c'est une bonne chose pour ma carrière. Donc c'est vrai que ça va être une nouveauté pour moi.
Alors on l'a dit, Bouna, vous êtes né à Lyon, vous avez la double nationalité franco-guinéenne. Il se trouve qu'on connaît un petit peu ici sur RMC le sélectionneur de la Guinée qui s'appelle Luis Fernandez, qui vous avait sélectionné au mois de juin. Puis je crois que vous avez un petit peu oublié de lui répondre, il n'était pas très content.
Bah écoutez, pour commencer, j'ai énormément de respect pour lui. Maintenant, je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. J'ai eu une discussion avec lui justement après le match retour de l'Olympique de Marseille. À aucun moment, je lui ai dit mot pour mot que je comptais venir. Je lui ai dit que pour moi, la sélection guinéenne m'intéressait toujours et que je ne fermais pas la porte après avoir refusé d'y aller à la CAN. Donc voilà, après, il m'a sélectionné. Moi, tout simplement, je n'y ai pas été parce que je suis rentré dans une situation où j'étais en instance de départ. Et je ne veux pas vous mentir, j'ai refusé tout simplement d'un point de vue. Par rapport à tout ce qui est blessure, enfin, j'ai pas voulu prendre de risque, tout simplement. J'ai préféré d'abord trouver un club et puis après réfléchir à la sélection. Donc, voilà, les propos, maintenant, moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Les personnes à Metz connaissent ma mentalité. Ils savent très bien que, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc, Voilà, auparavant, il a été confronté à cette situation, c'est-à-dire il a eu le choix entre la France et l'Espagne. Donc maintenant, sans aucune prétention, j'arrive dans un grand club. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Donc je pense qu'il est en bonne position pour me comprendre et savoir que voilà, pour le moment, je sais pas pressant, mais je prendrai une décision plus tard par rapport à la sélection.
Finalement, Bouna, tout ça part d'un quiproquo et votre choix vous a porté à l'Olympique de Marseille. Vous confirmez pour l'instant, vous êtes toujours en phase de réflexion entre l'équipe de France et la sélection de la Guinée.
Exactement. Maintenant, par rapport à ma situation, c'est vrai que j'ai un mess. J'ai toujours eu un accord avec la sélection qu'un jour je comptais y aller. Maintenant, comme je l'aurais dit, je préfère prendre mon temps encore pour le moment. À l'heure actuelle, j'ai la double nationalité, mais je ne suis pas international parce que je ne me suis jamais présenté à une sélection. Donc, libre à moi de choisir pour le moment, mais voilà, c'est vrai que le discours qu'il a pu avoir dans la presse m'a un peu gêné, mais bon, c'est comme ça, je ne l'en veux pas, il n'y a pas de souci.
Bouna, une question sur la saison prochaine. Votre préférence, c'est pour un OM Lyon ou un OM Paris Saint-Germain? Vous êtes plus pressé pour un OM Lyon ou un OM Paris Saint-Germain?
Bah, un OM Paris Saint-Germain, forcément, parce que je pense que pour Marseille, c'est un peu le match qui attend de.
Ah ça y est, vous êtes plus lyonnais là, vous vous êtes mis déjà dans le classico.
Non, c'est pas ça, c'est que forcément je vais devoir me mettre dans le costume marseillais. Aujourd'hui je vais représenter un club, des valeurs, celle de l'Olympique de Marseille. Donc forcément, quand on demande à un supporter de Marseille pour lui quel est le match le plus important de la saison, je pense que c'est le match contre le PSG. Donc forcément j'ai autant hâte, aussi hâte que les supporters marseillais de jouer ce match.
Pressé d'être au 8 août et ce match contre Caen et cette découverte du Vélodrome?
Voilà, je pense que j'ai pas eu la chance de jouer les dernières au Vélodrome. Donc c'est vrai que j'ai assez hâte de découvrir ce public et ce stade.
Merci beaucoup Bounassar d'avoir passé quelques minutes avec nous sur RMC. Bonne séance d'entraînement, bonne découverte de Marcelo Bielsa, de l'Olympique de Marseille et votre nouveau club. Merci beaucoup.
Merci Bouna.
Merci à vous. Je vous en prie.
Alors, le mercato de l'OM ne se termine pas avec l'arrivée de Bounassar. Mohamed, il y a d'autres joueurs, évidemment, qui sont dans la ligne de mire de Marseille. Combien? Qui? Tout ça. Et tu as beaucoup d'infos, je crois, à nous donner sur l'Olympique de Marseille.
Alors, l'OM souhaite recruter encore 3, voire 4 joueurs. Déjà, 3 joueurs sur le secteur, on va dire, plutôt défensif. C'est-à-dire un défenseur polyvalent qui jouera à droite et à gauche. Un latéral gauche ou droit. Ensuite, 2 milieux.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
L'Intégral Tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. Il est 20h51. On continuera à parler de foot également après, puisque ce sera l'after avec Florent Gautreau. Vous nous appelez au 3216 si vous avez envie de parler de l'OM, comme on vient de le faire avec Mohamed Bouafsi, sur le mercato de l'OM. Si vous voulez également parler de Lyon, puisque dans l'after, on va se demander si le flou autour du cas Anthony Lopez ne peut pas peser sur la préparation de l'OL. Et puis, si vous voulez parler du PSG, parce que le PSG, on va en parler maintenant, et notamment des gardiens du PSG. Est-ce qu'il va y avoir une guerre des gardiens à Paris? Ils vont être 3 maintenant, plus un quatrième qui revient l'an prochain. Donc Salvatore Sirigu, titulaire, Nicolas Douchez, son remplaçant, plus Alphonse Areola qui a été prêté à Villarreal. Et voilà qu'arrive Kevin Trapp, le gardien allemand a passé sa visite médicale ce matin. Mohamed, ça n'est pas Manuel Neuer, Kevin Trapp, mais c'est quand même un bon gardien et c'est pas juste un beau gosse.
Ouais, c'est pas juste un beau gosse, même s'il est connu en Allemagne pour ça aussi, pour son physique d'Apollon. C'est un très bon joueur selon les experts du football allemand, un espoir du foot allemand. Certes, il est derrière Manuel Neuer qui est titulaire indiscutable en sélection dans la sélection allemande et qui est reconnu comme le meilleur gardien allemand. Il y a aussi juste derrière Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone, mais Trapp n'a que 24 ans et selon plusieurs experts du foot allemand, c'est un très bon gardien avec une très belle aisance au pied et une très belle aisance aussi sur sa ligne.
Et tout le monde n'est pas d'accord avec ça, Mohamed.
Mais je ne l'ai pas assez vu jouer, Kevin Trapp.
Au 32-16, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Tu connais bien le foot allemand et tu ne comprends pas très bien pourquoi le PSG recrute Kevin Trapp.
Oui, parce que notamment au poste de gardien de but, à ce qui paraît, il a fini 4e meilleur gardien de Bundesliga l'année dernière. Je ne savais même pas, mais ça m'étonne parce qu'il y a des gardiens qui sont bien meilleurs que lui. Donc on a cité Neuer, on peut citer Leno aussi qui joue au Bayer Leverkusen. Après il y a des étrangers, on peut citer Burki de Fribourg, même s'il joue dans une équipe qui est beaucoup moins bien coté. Voilà, il joue. Voilà, Burki est devant. Zemmer, le gardien suisse de Gladbach, est devant aussi. Benaglio de Wolfsburg est devant aussi.
Si on t'écoute, Nicolas, là, c'est le pire gardien d'Allemagne, vraiment.
Mais écoute, si tu veux, il me semble qu'il était en fin de contrat. Il était en fin de contrat, là, cette année. En janvier, donc, il pouvait être pris en fin de contrat sans rien payer. Et Dortmund, qui avait vraiment besoin d'un gardien, s'est penché notamment sur Timo Horn de Cologne en janvier et sur Karius, qui lui aussi était en fin de contrat, qui joue à Mayence, qui est lui aussi dit à gros potentiel. Et Trapp, finalement, qui était en fin de contrat, il n'y a personne personne n'a recruté Kevin Trapp.
Non, Kevin Trapp, il était en fin de contrat jusqu'en 2000, il était en fin de contrat en 2019. Hein.
Ah oui, mais il a prolongé, là, en février.
Oui, en février.
Voilà, mais sinon son contrat se terminait en 2015.
Ah oui, mais puisqu'il a prolongé, du coup, c'est pas la même chose.
Et oui, mais en janvier, en février, tu pouvais le prendre en fin de contrat et te coûter zéro. Et il y avait aucun club allemand qui s'était mis dessus. Même Dortmund qui avait besoin d'un gardien et à cette époque-là, il pistait Loris Karius qui lui aussi est en fin de contrat et qui lui aussi a prolongé à Mayence. Et on parlait aussi de Timo Horn, mais on parlait pas de Trapp.
Alors Nicolas, merci d'avoir appelé le 3216. Okay. C'est ton avis, et tu connais bien le foot allemand sur Kevin Trapp. En tout cas, Mohamed, s'il est venu à Paris, Kevin Trapp, est-ce que c'est pour être remplaçant ou est-ce que c'est pour prendre la place de Salvatore Sirigu ?
Alors je pense que lui, il est venu dans l'idée de prendre la place de Salvatore Sirigu. En tout cas, le message qu'on lui a porté, c'est qu'il arrive dans le rôle de numéro 1 bis au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire d'avoir une concurrence saine. On répète souvent le mot de concurrence saine dans le foot.
Il n'y a jamais de concurrence malsaine.
Il n'y a jamais de concurrence malsaine. Il va arriver pour répondre à Salvatore Sirigu. Pourquoi ? Parce qu'on le disait tout à l'heure, le PSG considère qu'il faut deux très bons et deux très grands gardiens dans un club qui est devenu un très grand club européen. On l'a dit, il y a Sech et Courtois à Chelsea, Ter Stegen, bravo au FC Barcelone. Donc il fallait un très très bon gardien au Paris Saint-Germain avec Salvatore Sirigu, même si Nicolas Duchesne est une très très bonne doublure, il l'a montré la saison dernière en coupe. Aujourd'hui,
mais du coup, Sirigu, il va accepter ça ou il va
partir ? C'est la question, Virginie. Clairement, est-ce que Salvatore Sirigu va accepter ce rôle de numéro 1 bis ? On la connaît cette situation. Il va sans doute démarrer comme titulaire s'il reste au PSG et voir cette relation qu'il aura avec Kevin Trapp. S'il n'accepte pas cette situation et s'il n'accepte pas son rôle de numéro 1 bis avec Kevin Trapp, il devra quitter le Paris Saint-Germain. Et depuis quelques jours, on évoque un retour en Italie et on évoque le souhait de Salvatore Sirigu d'échanger, de discuter avec des clubs italiens.
Merci Mohamed Bouafsi pour toutes ces informations. Je pense qu'on va continuer à parler du Paris Saint-Germain à un moment dans l'after avec Florent Gautreau, parce que cette guerre des gardiens pourrait avoir lieu à Paris.
Bien sûr, la guerre des Gaules, c'est au programme de l'after, Virginie. L'after jusqu'à 23h. Au programme ce soir, outre cette guerre des Gaules, plein d'infos sur l'OM, le mercato malin du LOSC et le vestiaire lyonnais en pleine renégociation. L'after arrive dans quelques instants. À tout de suite.